Bonjour, bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. En cette fin de semaine, le dimanche que nous allons célébrer porte le nom de Fête de la Sainte Trinité. Disons qu'on met l'emphase sur la dimension trinitaire de Dieu. Alors, Francine, on a convenu ensemble qu'on ne ferait pas une lecture de l'Évangile du jour, mais que le commentaire se fera à partir des quatre textes qui sont proposés dans la liturgie de ce dimanche de la Trinité de l'année C. Est-ce que vous voulez donner une introduction pour nous faire rentrer tranquillement dans ce mystère?
Oui, ce mystère, vous employez le bon mot, Claude, c'est un sujet complexe et on est toujours pris avec les limites du langage. Et comme on pourrait dire, Dieu, il se fait pas connaître par des définitions. Si on regarde la tradition biblique et l'événement Jésus-Christ, il se fait connaître en entrant en relation. Alors, je dirais, il y a de Dieu ce qui est à notre origine, ce qui est l'origine absolue de toute existence, et c'est habituellement cela de Dieu que l'on désigne lorsqu'on emploie les mots créateur ou père. Cela de Dieu qui existe hors de nous, avant nous et indépendamment de nous. Il y a aussi de Dieu en nous. On le sent bien, parfois, il y a une sorte d'intuition, d'impulsion aussi. Et c'est ce que l'on appelle en régime chrétien l'esprit. Et il y a, dans l'événement Jésus, de Dieu avec nous. C'est l'originalité fondamentale du christianisme d'ailleurs. Que Dieu soit créateur et père, c'est dans toutes les religions, c'est une intuition de base. Il y a presque dans toutes les religions une intuition que parfois Dieu est présent à l'intérieur de nous comme inspirateur, mais c'est propre au christianisme que on dise aussi de Dieu qu'il est non seulement hors de nous et à notre origine et aussi en nous, mais qu'il est aussi l'un de nous, ce qu'on appelle l'incarnation, donc. Et puisque c'est l'originalité du christianisme, ça veut dire que d'une certaine manière, en Jésus, on a une révélation aussi sur les deux autres. Ça veut dire que sur les deux autres intuitions que nous avons de Dieu. Comment Jésus nous invite à percevoir le Dieu éternel à l'origine de tout, et comment Jésus nous apprend à percevoir l'Esprit en nous. Alors, on va essayer de parler des trois.
Bon, et puis, toutes les limites du langage... quand on est bien pressé de dire le Père, le Fils, puis l'Esprit-Saint, c'est déjà des catégories, et faisons attention de ne pas enfermer, si on peut dire, la personne de Dieu dans ces catégories qui sont là pour nous aider à l'approcher, mais c'est pas des...
C'est ça, c'est nous qui avons besoin du langage et des représentations, c'est pas Dieu, hein?
Voilà.
Faut toujours s'en rappeler. On va commencer, en fait, avec l'Esprit, celui des trois qui vient toujours en dernier, comme dans l'Évangile, les derniers sont premiers. Je commence avec l'Esprit. Et dans Paul, la deuxième lecture, on va lire quelques phrases selon le besoin de la présentation. Alors, j'ai extrait une phrase de cette deuxième lecture de Paul aux Romains. Est-ce que vous pourriez nous...
Oui. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
Vous voyez, l'Esprit, il éveille notre conscience de l'amour de Dieu pour nous. Je le précise, hein, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, on pourrait le comprendre, l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour de Dieu, aimer Dieu. Ça marche dans les deux sens.
Vous avez raison.
C'est l'amour de Dieu pour nous, j'ai vérifié, c'est vraiment
un génitif,
un complément du nom. Et donc, l'Esprit révèle en nous que Dieu nous aime.
Qui prend l'initiative.
Voilà.
Ouais.
Et Paul insiste là-dessus. Croire au Christ, c'est croire que Dieu nous aime. Pour Paul, c'est avoir reçu l'Esprit du Christ et que donc nous sommes enfants aimés de Dieu. Il va aller plus loin, Paul, ailleurs, dans l'Épître aux Romains. C'était justement la deuxième lecture de dimanche dernier à la Pentecôte, au chapitre 8. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave, mais un esprit qui fait de vous des enfants adoptifs par lequel nous crions « Abba, Père
mm-hmm. ». Donc, ouais. le rôle principal, c'est enraciner en nous la conviction de ce que le Christ a révélé.
C'est-à-dire que Dieu nous aime le premier.
OK. Et puis, mettons un deuxième rôle qui serait de dynamiser notre vie d'enfant de Dieu.
Oui.
Au sens de, bon, mobiliser nos capacités à aimer, donc orienter notre agir, éveiller en nous, si on peut dire.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Au fond, répondre à l'amour par l'amour. Mm-hmm. Première conviction, Dieu nous aime, l'Esprit inscrit ça en nous, en tout cas, il essaie. Mm-hmm. Et en réponse à ça, l'Esprit nous aide à agir aussi en aimant. Donc, voilà pour Paul. J'ai parlé de l'Esprit qui crie en nous à bas page. Je signale qu'on y reviendra à la fin de l'émission parce que ça veut dire que l'Esprit nous dit quelque chose de Dieu. On voit la Trinité, là. Le Père nous aime, c'est l'Esprit qui nous le dit, mais c'est l'Esprit donné par Jésus. Les trois sont là.
Bien. Et nous passons maintenant avec la vision que Jean a de l'Esprit.
Oui, c'est autre chose. Si vous voulez encore là, nous en lire un petit bout, s'il vous plaît.
Et donc, c'est une phrase qu'on va retrouver dans la liturgie de ce dimanche.
L'Évangile, oui.
Au chapitre 16 de l'Évangile de Jean, « J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. »
On voit qu'on est dans un tout autre registre. D'abord, il s'agit de l'Esprit de vérité. C'est quitte une expression propre à Jean, on la trouve nulle part ailleurs. L'Esprit de vérité a pour rôle de nous faire accéder à la vérité. Donc, il nous aide, évidemment, à l'interne toujours. L'Esprit, c'est Dieu qui travaille en nous. Alors, il aide à comprendre, il aide à approfondir le sens de ce que Jésus a dit et fait. Ou, pour le dire autrement, il nous fait entrer dans la vérité plus profonde. Il donne pas des cours. Quand je dis « il aide à comprendre », c'est pas des explications, mais c'est comme un épanouissement de la signification qui est évidemment rendu possible à la lumière de la résurrection, donc après Pâques. Comme si on n'avait jamais fini de déployer toute la richesse de sens qu'il y a dans ce que Jésus a dit. Alors, l'Esprit de vérité, ça va être son rôle de nous aider à approfondir ça. Donc, c'est un rôle qui s'adresse à l'intelligence, je dirais. Et en même temps, on voit bien que ça peut rejoindre un peu Paul, puisque chez Paul, la grande vérité que l'Esprit va nous aider à approfondir, c'est « Dieu nous aime hein? ». Mais on n'a jamais fini de l'approfondir. L'Esprit est toujours comme un moteur interne en nous qui est ce que j'ai appelé au début de l'émission, Dieu en nous. Dieu hors de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. En nous, c'est l'Esprit. Voilà, ça c'est l'Esprit, Paul et Jean.
Alors, notre liturgie de fin de semaine va nous servir en première lecture un texte du livre des Proverbes au chapitre 8, mm-hmm. portant sur la sagesse.
En fait, le lien est avec le Dieu créateur. Mais ce chapitre 8 des Proverbes présente la sagesse personnifiée. Et elle est personnifiée en femme. Ces chapitres-là ont été très commentés par les pères de l'Église, donc les évêques théologiens des tout premiers siècles de la chrétienté. Et imaginez-vous donc que plusieurs y ont vu une personne de la Trinité. Alors, ça nous fait du féminin en Dieu, on pourrait dire, puisque la sagesse s'est personnifiée au féminin. Il y a une différence évidemment majeure, c'est pas une personne de la Trinité, la sagesse, là, elle est créée dans notre texte de Proverbe 8, elle n'est pas Dieu comme tel.
C'est ce qu'on retrouve au plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, hein, qui montre dans sa fresque de la création que cette sagesse est enlacée par le bras gauche
oui,
de Dieu.
Par, oui, parce ça? Qu'évidemment, il crée de la main droite.
Il crée de la main droite et le bras gauche.
Il touche Adam avec son doigt.
Oui.
Et dans son bras gauche, il y a une belle fille.
OK. Sophia, sagesse.
Sophia, sagesse, c'est Sophia mm-hmm. en grec. Uh-huh. Alors, bravo à toutes les Sophies qui nous écoutent.
Bon.
Ce proverbe 8 parle de la création et ça m'amènerait donc à aborder le Dieu dit créateur. Donc, non plus Dieu en nous, mais Dieu radicalement hors de nous.
qui nous précède depuis toujours et pour toujours. Hein.
Mm-hmm.
Claude, je ne vous apprendrai rien et j'apprendrai rien non plus à vous, madame, monsieur, qui nous écoutez, en disant que le fait que Dieu ou les dieux ont créé le monde, c'est une des intuitions religieuses les plus primitives de l'humanité. Il n'y a rien d'original là-dedans. Ce qui est intéressant avec la sagesse biblique, c'est autre chose, c'est que elle fonde son credo sur plus que l'idée que Dieu a créé le monde. Mm-hmm. Dieu n'a pas créé le monde n'importe comment, il a créé l'ordre. Le monde a un sens. Et la sagesse pour les humains, donc, c'est de comprendre l'ordre.
Dieu fait de l'ordre dans le chaos. Hein?
Absolument. Ouais. Et si vous relisez Genèse 1, la création, il sépare les lumières des ténèbres, il sépare le sec de l'eau, bon, et ainsi de suite.
Et l'autre aspect important sur le Dieu créateur, c'est que c'est pas un acte créateur du début seulement.
Oui, hein, c'est
le moteur
important.
Premier, le créateur qui lance sa création, mais le créateur est toujours à l'œuvre.
Voilà, et c'est bien que vous en parliez parce que j'ai parlé tantôt de Genèse 1 et on a toujours l'impression que la création s'arrête là. Dans l'intuition biblique, et on pourrait dire dans la révélation biblique, Dieu est constamment en acte créateur, il engendre et il soutient toute vie. Tout ce qui vit, vit grâce à son soutien permanent. Donc, cet aspect de Dieu qui est radicalement hors de nous, qui est celui qui engendre la vie, qui la précède de toute éternité, on peut dire, mais qui, en même temps, en prend soin en permanence. Ces images-là nous viennent, bien sûr, de notre expérience parentale. Nos parents ont existé avant nous et sans nous, et ils auraient existé même si nous n'étions jamais nés. En même temps, ils sont à l'origine de notre vie. Et pour la grande majorité d'entre nous, ils sont pas contentés de nous mettre au monde, mais ils ont soutenu notre existence. Ils ont
jour
pris
après
soin,
jour.
Oui, en permanence, jusqu'à ce qu'on atteigne un certain âge. Donc, c'est notre expérience du père et de la mère qui est exprimée dans cette figure du Dieu créateur. Et ça nous positionne face à Dieu comme recevant de lui notre existence. Lorsqu'on dit « Père », on dit une relation à lui. On dit pas qui il est, on dit comment on se situe par rapport à lui.
Donc, désigner Dieu comme Père, c'est pas une originalité de Jésus.
Ah non, c'était déjà dans les religions du Proche-Orient ancien, avant même la période biblique. Je vous lis une prière assyrienne qui date de 2500 avant Jésus-Christ, c'est pas avant hier, là. Ô Père miséricordieux et indulgent qui tient dans sa main la vie du monde entier, ô Seigneur, Père des dieux et des hommes, Père générateur de tous les vivants. On trouverait ça dans un psaume de la Bible, Claude, on serait pas étonné, hein.
Bien sûr. Et vous le datez à 2500 ans.
Oui, en fait, spécialiste. Ouais. Alors, vous voyez que c'est tout à fait naturel. Là aussi, je dirais, c'est l'instinct religieux naturel. On part de notre expérience. C'est nos parents qui nous ont mis au monde et on la projette sur Dieu parce que l'on croit que Dieu est à notre origine réelle. Mais ça, c'est trop long à dire. Fait qu'on dit père.
C'est ça.
Ou on dit mère. Évidemment, on a tous un père et une mère, qu'on les connaisse ou non, d'ailleurs. Ça veut dire que Dieu assume les deux rôles, hein. Il est autant mère que père, faut-il le rappeler, puisque dans la réalité que nous vivons, il n'y a aucun père qui est tout seul l'origine de quelqu'un. En même temps, la Bible, évidemment, ne pouvait pas dire Dieu-mère. On est dans l'Antiquité, dans les sociétés patriarcales. On va dire père-mère, ça serait l'idéal, mais c'est surtout que lorsqu'on parlait de Dieu, lorsqu'on veut évoquer Dieu, faut aussi dire sa souveraineté. Hein, il est le maître, il est le roi, il a l'autorité, il est tout-puissant. Et ça, ça va mieux avec l'image du père. C'est pour ça qu'on a choisi père. Parce que lorsqu'on dit père, nous autres, on dit peut-être d'autres choses aujourd'hui parce que notre expérience du père, c'est autre chose. Notre expérience du père, je veux dire, familiale, là. Mais à l'époque, dire Dieu Père, c'était dire d'abord, c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui décides. Tiens, je vous lis la suite de ma fameuse prière. Ô Seigneur, ici c'est Maître, qui décide le sort du ciel et de la terre, personne ne peut changer ta parole. C'est Dieu Père, mais pas juste Dieu. Ah, c'est le fun, c'est un Père, il prend soin de nous. C'est d'abord celui qui a l'autorité, le pouvoir, celui qui décide puis qui est tout puissant. Alors, vous voyez, Claude, je veux faire de peine à personne, mais pour pouvoir dire « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », On n'a pas besoin d'être chrétien, ni juif, ni musulman. C'est de l'instinct naturel. On pourrait dire « je crois en les dieux » si on était polythéiste, mais ça marche quand même. Et il y a toujours là-dedans l'image de l'autorité et du pouvoir, pas juste l'image du créateur. Évidemment, on a des images, nous, associées à l'image du Père, notre expérience, c'est l'attention, la tendresse, le soin. Ça nous vient en partie, évidemment, de l'Évangile. Ça nous vient aussi de nos expériences modernes de la paternité. Mais ça va peut-être vous surprendre, ça vient aussi de l'Ancien Testament. Le Premier Testament désigne Dieu Père parfois. Par contre, ce qui est beaucoup plus fréquent et plus original, lorsqu'on lit dans nos traductions « miséricorde de Dieu »,« compassion de Dieu », je vous donne une des phrases les plus connues. « Yahvé est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour », on rencontre ça dans les psaumes, dans l'Exode. Le mot qui est là, qui est traduit par « miséricorde » ou « compassion » ou « tendresse », c'est le mot hébreu, imaginez-vous donc, pour utérus.
Mm-hmm. Donc, c'est le même mot.
C'est exactement le même mot. Ou alors, ça va être un adjectif fait avec utérus. Mm-hmm. Alors, en français, on pourrait dire utérin. Chouraki a traduit matriciel. J'aime ça beaucoup. C'est au sens figuré, bien sûr, que c'est employé pour Dieu. Dieu a pas de matrice, il n'y a pas un utérus. Il n'y a pas plus de bras, puis de mains, puis d'oreilles. Voilà. Mais, employé au sens figuré, Dieu nous aime avec émotion, avec tendresse, de façon matricielle, on pourrait dire. Comme une maman avec son bébé qui vient juste de sortir de son ventre. Et nous, évidemment, on le voit pas, parce que c'est traduit miséricorde, compassion, tendresse.
C'est vrai.
On voit pas ce qu'il y a de féminin dans cette image, sauf que les auteurs, eux, qui écrivaient comme ça, ils voyaient que, puisque c'était un adjectif fait avec utérus. Un autre bout, par exemple, où Dieu est comparé à une mère, si vous voulez nous le lire, c'est Isaïe au chapitre 49.
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion pour le fruit de son ventre, même si elle l'oublie? Moi, je ne t'oublie pas.
Alors, vous voyez, là, Dieu, évidemment, se désigne avec l'image de la mère. Mm-hmm. La femme a une matrice, a des entrailles pour le fruit de son ventre.
C'est ça. Le mot compassion, si on remonte à la racine, il vient du mot utérus.
Ou... Voilà, entrailles. Alors, en grec, le mot entrailles, qui est plus large que utérus, qui désigne vraiment l'ensemble de ce qu'on a dans le ventre, on pourrait dire, aussi bien les hommes que les femmes. Et même Luc, il va l'utiliser pour Dieu. Hein. C'est la prière de Zacharie parle des entrailles de miséricorde c'est de notre vrai. Dieu. C'est jamais traduit comme ça. Si vous voulez ouvrir votre Nouveau Testament, vous allez avoir les sentiments de miséricorde c'est de notre ça. Dieu. Ben, les entrailles, moi, je trouve que c'est le fun. Et évidemment, on le sait, je le redis, Dieu n'a pas d'entrailles. Et Dieu n'est pas une mère. C'est une image.
C'est ça. Ce sont nos termes humains. À partir desquels nous essayons de comprendre qui est Dieu.
Et surtout, je dirais, de nous situer dans la relation avec lui. C'est-à-dire de le positionner par rapport à nous et non pas en lui-même. Ça nous échappe ce qu'il est en lui-même. C'est pas mauvais, je trouve, d'imaginer que Dieu porte l'humanité dans son grand ventre. Et qui s'en occupe avec amour comme une mère son enfant, je trouve que ça porte un sens spirituel très profond. Mais ça reste une métaphore, c'est clair.
Tout comme le mot père.
Ben voilà ce que j'allais dire, Claude. On en est plus conscient que c'est une image quand on dit que Dieu est mère. On devrait avoir autant conscience que c'est une image quand on dit que Dieu est père. En fait, on pourrait dire que Dieu, en tant que créateur et origine, il est père-mère. Dieu Père, c'est pas son nom. C'est embêtant, dans la liturgie, on dit toujours « gloire au Père, au Fils et à l'Esprit », alors que la meilleure théologie, indépendamment des femmes ou des hommes, devrait nous dire que Père, évidemment, il y a quelque chose de limitatif, c'est insuffisant pour dire Dieu. Au niveau de la réalité, un Père, il est l'origine de personne tout seul, je le rappelle.
Très juste.
Or, on dit de Dieu qu'il est à l'origine de tout, il n'y a pas besoin d'une femme pour ça. Donc, il est matriciel ou père-mère.
Alors, il nous reste peu de temps. Est-ce que nous pouvons aborder maintenant la personne de Jésus?
Comme on parle souvent de lui les autres dimanches, il nous en voudra pas qu'on en parle un peu moins. Bon, ce que je disais au début, il y a eu Dieu en nous, l'Esprit, Dieu qui nous précède et est toujours hors de nous, Dieu, créateur ou père-mère. Et il y a Dieu avec nous, cette originalité du christianisme. c'est-à-dire ce qui, de Dieu, a décidé de devenir l'un de nous, dans une solidarité totale. Quand je dis dans une solidarité totale, ça veut dire que Jésus de Nazareth, c'est un homme total, c'est pas un Dieu déguisé en homme, c'est pas Dieu dans sa tête avec un costume de corps par-dessus. C'est ça le sens de l'incarnation, hein? C'est la formule la plus traditionnelle, Dieu s'est fait homme. Ou Jean, le Verbe s'est fait chair. C'est pas, il a pris un costume, là.
Puis il y a toujours le danger de faire de Jésus un demi-dieu,
ben oui,
issu d'un père divin puis d'une mère humaine.
Ouais, c'est ça, alors.
Qu'on trouvait pas mal dans les religions polythéistes.
Faut pas en faire un être dont la moitié du code génétique viendrait de Dieu et l'autre moitié de son code génétique lui viendrait de Marie, là. Ça serait ça, un demi-dieu. Ça fonctionne pas, ça.
Personne ne sait comment ça s'est passé, mais peu importe comment, en Jésus, il y a Dieu qui se vide de sa condition divine, hein, c'est l'hymne aux Philippiens.
Oui, qu'on trouve au chapitre 2 de la lettre aux Philippiens.
Magnifique hymne. Mm-hmm. Évidemment, Jésus appelle Dieu Père, il l'appelle Dieu aussi. De toute manière, Jésus ne fait pas œuvre originale quand on s'imagine que cette désignation de Dieu est révélée par Jésus, non. Je vous l'ai dit, elle est déjà dans les religions polythéistes. Et elle est déjà dans le judaïsme au temps de Jésus. Par exemple, une prière qui était récitée tous les jours, matin et soir. Donc, Jésus a prié ça deux fois par jour toute sa vie.
Et qui se dit comme ceci. Juste un petit bout là de cette prière, c'est « Dans ta grande miséricorde, tu as eu pitié de nous, notre Père, notre Roi. Notre Père miséricordieux, aie pitié et enseigne-nous. »
Donc, prier Dieu comme notre Père, là, c'est déjà dans la foi juive au temps de Jésus, c'est pas original. Je dis pas que c'est pas bon parce que c'est pas original. On a fait nous revenir notre Père à la Torah, rapproche-nous notre Roi de ton service, Seigneur notre Père qui est aux cieux. Tout ça, c'est dans la prière juive que Jésus a apprise. En même temps, je veux juste faire observer, à cause de ce qui va suivre, que ça maintient bien une distance. On s'adresse à Dieu en l'appelant notre Père, mais c'est notre Père, notre Roi. Ou celui qui donne la Torah et qui nous enseigne, et donc on garde l'image d'autorité aussi. Père, Roi, la loi qu'on doit suivre. Distance et autorité dans le mot Père. Alors, que Jésus utilise Père, c'est pas original, mais là où il est original, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il a dit au moins une fois « Abba ».
Qui veut dire « papa ».
Voilà. Et là, on est dans le beaucoup plus familier et familial. C'est un terme plus intime, affectueux, confiant. Et les exégètes s'entendent pour dire qu'au fond, ça abolit un peu plus la distance. Qu'on sent dans des prières comme « notre Père, notre Roi ». C'est comme si Jésus disait « Dieu est tout proche ». Et si on doit rester dans la métaphore paternelle, Jésus dit « papa » plutôt que « père ». Et il l'a sûrement dit devant les disciples, hein, Claude, parce que c'est un mot araméen et tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Alors, on arrive avec un mot araméen dans le grec, il faut que ça vienne de quelque part. Et c'est pas naturel du tout dans la foi juive, donc c'est pas les premiers chrétiens qui ont inventé ça. Pourquoi je trouve ça important? Parce que ça nous dit quelque chose de Dieu. Bon, les exégètes disent toujours que si Jésus appelle Dieu Abba, ça dit quelque chose de Jésus, ça dit qu'il est bien proche de Dieu. Moi, il me semble que si Jésus appelle Dieu Abba, ça nous dit quelque chose de Dieu, ça veut dire qu'il est bien proche de nous.
C'est ça.
Il y a même plusieurs spécialistes qui pensent que lorsque Jésus enseigne la prière du Notre Père à ses disciples, et particulièrement au chapitre 11 de l'Évangile de Luc, ce qu'il a dit en disant « quand vous priez, dites », c'est « Abba » et non « Père ».« Abba, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Et donc, ce qu'il révèle, c'est un Dieu tout proche. Pourquoi je me permets de dire que les chrétiens peuvent faire comme Jésus et dire « Abba » mais parce que c'est ce que Paul nous dit. Et là, je vais rappeler le texte sur le rôle de l'Esprit que je mentionnais au tout début de l'émission. Par exemple, au chapitre 4 de la lettre aux Galates, Paul nous dit « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». » C'était identique dans Romains au chapitre 8, la lecture de dimanche dernier. Donc, le « Abba » n'est pas réservé à Jésus. Cette proximité de Dieu, elle est aussi pour nous. L'Esprit la révèle en nous. nous dit Paul, ou l'esprit nous aide à la comprendre, nous dit Jean. Et cet esprit-là, c'est l'esprit du Christ qui a lui-même dit Abba en parlant de Dieu. On vient de boucler sur la Trinité, là. J'ai mis les trois dans la même phrase. Je m'arrête.
Bien. Alors, mon invité ce matin, Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone, Claude Julien, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.